Conversations urbaines et architecturales, une émission présentée par Myriam Schwartz, architecte et urbaniste sur Radio Immo.
Chers auditeurs, bonjour. Bonjour, je reçois aujourd'hui Patrick Mauger, architecte, bien sûr, et aussi architecte conseil de l'État auprès du ministère de la Culture. Bonjour Patrick.
Bonjour Myriam et bonjour à tous vos auditeurs.
Bon, on va parler de quelque chose qui est extrêmement complexe, mais on va essayer d'avoir un dialogue fluide. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a un voisinage, une relation intime entre la neurologie, la neuroplasticité, la neuro, enfin en gros le cerveau, quoi, et l'architecture? Parce qu'effectivement, ça paraît pas évident au premier abord, hein.
Non, c'est des analogies très intéressantes et qui, aujourd'hui, ont tout un sens quand on cherche à faire des bâtiments qui peuvent muter, qui peuvent se reconfigurer très facilement et à moindre coût. Et le cerveau est plastique par essence, et on a travaillé avec Jacques Glevinsky, neuropharmacologue du Collège de France, professeur émérite et administrateur du collège, sur ce parallèle entre le cerveau et l'architecture.
Donc il y a trois aspects qui sont complètement parallèles, enfin qui sont vraiment intimement liés.
Absolument, il y a trois... Le fonctionnement simplifié du cerveau, c'est un réseau exécutif, un réseau régulateur et un réseau énergétique qui fonctionne pour que le corps humain ou...
C'est possible de détailler un peu les trois justement pour les auditeurs?
Absolument. Le réseau exécutif, c'est la fonction. C'est vous avez besoin de manger, vous avez besoin de marcher, voilà.
Ouais.
Donc ça, c'est l'exécution des fonctions, l'exécution par rapport au corps humain. Le réseau régulateur, c'est les questions de bien-être. Vous êtes bien parce qu'il y a de l'air, vous êtes, voilà, vous
D'accord,
êtes heureux.
On a chaud, le ressenti quand même.
Voilà, c'est les ressentis, les humeurs et le réseau énergétique, c'est des cellules gliales qui vous amènent l'oxygène ou qui vous amènent le glucose pour exécuter
D'accord.
les fonctions. Voilà.
Ok. Et alors du coup, bon, une fois qu'on a dit qu'il y avait une certaine intimité entre les deux, comment on passe de ces fonctions de cerveau qui sont quand même, on va dire, presque banales à une architecture de bien-être, à une architecture d'évidence, avec justement cette combinatoire possible?
Alors, en architecture, ça se traduit, le réseau exécutif, c'est les usages, les fonctions qu'on a, et c'est la qualité d'usage qu'on va chercher. Le réseau régulateur, c'est le bien-être, l'espace, la lumière qu'on a, et on peut créer des espaces où on est bien, des espaces où on est mal. Et le réseau énergétique, c'est évidemment l'eau, l'électricité, l'informatique, la climatisation, mais aussi l'air frais. Voilà, c'est tout ce qui fait qu'on va exécuter le fait de travailler ou d'habiter avec en harmonie ou d'une manière avec un bien-être.
Mais pourtant, le combinatoire dans l'architecture ou l'hybridation, même si évidemment c'est bien différent, puisqu'on est d'accord que dans le combinatoire, on est quelque part un peu dans l'enveloppe du cerveau, hein, on a cette espèce d'enveloppe. Qui est quelque part, on va dire, qui sous-tend des limites, hein, même si elles sont plastiques,
oui.
Même si elles sont plastiques, avec une certaine plasticité, hein, pas plastique parce que sinon c'est carrément pas écologique, mais avec des combinations possibles, le côté combinatoire, c'est-à-dire de mélange, de mixité, etc., qui est très très différent de l'hybridation. Mais les bâtiments en architecture, c'est récent qu'on se pose la question de ce concept. Avant, on va dire un bâtiment de logement, c'est un bâtiment de logement, un équipement, c'est un équipement, etc., etc.
Oui.
Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette nouvelle intelligence? Le cerveau, pourtant, il a toujours été intelligent.
Le cerveau a été toujours intelligent, mais on a aussi des connaissances qui avancent. Les neurobiologistes travaillent beaucoup, et tous les gens qui travaillent sur le cerveau. Ça fait sens aujourd'hui en architecture parce que justement, les bâtiments ne sont plus figés. Et que quelque part, le monde va tellement vite qu'on ne sait pas, à 3 ou à 5 ans, le temps en fait, de produire un projet et de le réaliser, on ne sait pas finalement ce qu'on va
Bien
trouver
sûr.
Dedans. Et c'est le propre de la recherche où les financements de la recherche, c'est sur 3 ans, la plupart du temps. Donc au moment où on commence à imaginer un bâtiment, finalement, on se dit que quand les chercheurs
Bien
vont
sûr.
Arriver dedans, ils ne savent pas encore ce qu'ils vont y faire. Et cette combinatoire, effectivement, elle est intéressante parce que dans un même bâtiment, s'il est bien pensé, s'il est bien conçu, mm-hmm. on peut recombiner les choses. Dans le Learning Planet Institute qu'on a fait dans le Marais à Paris, effectivement, les chercheurs là, en 8 ans, nous font reconfigurer déjà le bâtiment à moindre coût, parce qu'il est pensé ainsi, parce que leurs besoins ont changé déjà.
C'est-à-dire, dès le début, vous saviez, quand vous avez fait ce bâtiment il y a 8 ans, que vous alliez une fois, deux fois, trois fois, éternellement, en fait, remoduler l'espace.
Oui, je pense que c'est une posture des architectes qui est différente aujourd'hui, où on ne crée pas une œuvre qui est intangible et qui restera comme ça jusqu'à sa ruine.
Est-ce à dire qu'ils sont plus flexibles, hein?
On essaie. On essaie. Et ça permet effectivement de s'inscrire dans le temps aussi. Je pense qu'il y a quelque chose, on a fait au mouvement moderne table rase de tout pour reconstruire l'homme nouveau. Aujourd'hui, on ne croit plus en l'homme nouveau. On est perpétuellement en évolution. Et toutes les espèces d'ailleurs.
Mais c'est la différence entre identité et singularité.
Absolument.
Et ça, c'est vraiment le nœud.
Oui, l'identité, elle est parfois figée, mais on voit qu'aujourd'hui, elle bouge. Et la singularité, c'est le fait de pouvoir continuer à évoluer, de pouvoir continuer à faire, y compris des nouveaux usages qu'on n'a pas imaginés 5 ans avant, dans un bâtiment qui est conçu pour ça.
Pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des espaces de rencontre, parce que sinon, chacun reste dans son téléphone et son ordinateur.
Oui, il y a des espaces qui sont un peu en dehors des usages demandés par le maître d'ouvrage la plupart du temps, qui peuvent être des paliers d'escalier, qui peuvent être des cours communes, qui peuvent être des places communes et publiques, et qui fait que les gens se rencontrent. Parce qu'aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, les téléphones, on est toujours, on le voit bien dans le métro, dans la rue, tout le monde est avec son téléphone, et il faut créer les conditions de la rencontre, et du fait que les gens, à un moment, abandonnent et prennent le temps de croiser quelqu'un, de le rencontrer, voire d'être un peu bousculé dans ses opinions et pour créer l'enrichissement de la vie.
Et alors du coup, j'ai cru comprendre que pendant 3 jours, il y allait avoir une phosphoration, non, on dit comme ça, je suis pas sûre, mais c'est pas grave, hein, justement, qui fait qu'on va essayer d'expliquer au plus grand nombre cette singularité du cerveau, cette identité d'architecture, cette rencontre des deux. Ça va se passer sur 3 jours à Paris. C'est possible de nous en dire un peu plus?
Oui, bien sûr. Ça va être au 5 rue Bailly, dans le 3e. Au métro Arts et Métiers.
C'est exprès, les Arts et Métiers, justement?
Oui, aussi. Hein? Et on va faire donc une exposition de 3 projets qu'on a réalisés donc, avec la méthode que j'ai mise au point avec Jacques Glevinsky. C'est un hommage aussi au travail que j'ai fait avec Jacques. Et donc, on présente 7 projets, mais c'est surtout tous les soirs, on a une table ronde conférence sur les questions d'usage et sur les questions d'usage sur les lieux d'apprentissage où on continue à apprendre. Enfin, ça peut être des lycées comme des centres de recherche, des universités. Un soir, on a... Et de partir de l'existant, parce qu'aujourd'hui, on a toujours un existant et on le fait évoluer, en fait, dans le temps. Ça, c'est le 15. Le 18, le 16, on a quelque chose qui est sur les bureaux, la manière dont on travaille aujourd'hui. On voit bien, d'ailleurs, avec la Défense qui se pose de nombreuses questions.
Énorme, puisqu'ils sont des plateaux entiers, des Absolument. Bâtiments entiers vides.
Voilà, et le 17, c'est sur l'habiter, et on travaille avec Merci Raymond sur toute une table ronde sur l'habiter, et le 18, c'est un retour d'expérience, et c'est l'explication raisonnée de ce parallèle et de cette méthode entre l'architecture et le cerveau.
Alors, bon, c'est aussi pour, je suppose, pour porter la bonne parole, parce que, bon, faire 3 jours de conférences et de rencontres, etc., c'est formidable. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça fait sens à la fois dans la pratique des architectes, mais aussi dans la transmission à ces jeunes générations qui peut-être ne sont pas encore vraiment dans cette évidence de réflexion entre cerveau et architecture. Parce que
alors,
c'est quand
cette
même pas
jeune
évident.
Génération qui arrive à l'agence, nos jeunes ingénieurs et architectes qui arrivent, effectivement, n'ont pas connu Jacques Glevinsky. Et donc, on essaie de les sensibiliser et on se rend compte que à la fois beaucoup de jeunes étudiants et de jeunes architectes qui arrivent sont en demande qu'on explique cette méthode. Mmh. Et ils sont eux-mêmes interrogés par l'état de la société et par donc on travaille sur la question énergétique, et la frugalité, c'est comment on met le moins d'énergie et le moins de matériaux pour obtenir les fonctions que l'on veut. Et on voit aussi les jeunes maîtres d'ouvrage très sensibles à ça.
C'est-à-dire qu'ils seront là ?
Ils seront là.
Ils sont invités, en tout cas.
On les invite et on invite tout le monde à venir. Alors, et débattre.
Est-ce que c'est justement pas exactement le bon moment puisque la génération qui arrive, elle sait très bien qu'elle sera obligatoirement dans la frugalité, qu'elle sera aussi obligatoirement, confrontée à des événements climatiques difficiles, puisqu'ils sont de plus en plus présents. Est-ce que justement c'est le moment de se poser ces questions ? Et comment fait-on sens sur une société un peu plus large, hein ? Parce que là, ça reste quand même...
Oui, alors c'est un des buts que nous avons avec cette exposition et ces conférences. Et on travaille par exemple avec Promenons-nous dans la ville pour les questions d'habiter. Mm-hmm. Et la soirée du 17 est spécialement organisée par eux. Ça fait sens parce que on co-construit en fait, et cette méthode, en fait, cette plasticité que le cerveau nous inspire permet une interdisciplinarité et une co-construction de ces projets. Et c'est vrai à la fois pour l'architecture et c'est vrai à la fois pour la ville, enfin, et pour l'urbanisme.
Et on évite l'éparpillement.
On évite l'éparpillement parce qu'il y a des méthodes, ça serait trop long à expliquer, mais il y a des méthodes là qui nous permettent effectivement de rassembler. Jacques Levinsky a travaillé sur le plateau de Sacle à l'origine du plateau pour regrouper les 22 écoles et les industries.
Bah écoute, tout ça est passionnant. On redonne les dates, on redonne le lieu, parce qu'effectivement, c'est très vite, c'est bientôt, c'est la semaine prochaine. Hein.
C'est la semaine prochaine, c'est donc du 15 au 18 octobre, 5 rue Bailly, dans le 3e. Ça s'appelle Neuroarchitecture.
À bientôt, chers auditeurs. Et regardez bien les réseaux, y compris Radio Immo, évidemment.
Conversations urbaines et architecturales, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.